présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Plus d'un million de manifestants dans les rues d'Alger hier, selon les participants à ce nouveau rassemblement pour réclamer la fin du régime Bouteflika. Dans ce journal, reportage dans le cortège avec notre envoyé spécial Mathilde Dehimi.
Une marche à très haut risque à Gaza aujourd'hui.
Pour le premier anniversaire de ce que les Palestiniens ont appelé la marche du retour, le Hamas annonce ce matin qu'un jeune homme de 20 ans aurait été tué par des tirs israéliens alors qu'il manifestait. Nous irons à Gaza dans quelques minutes.
Et en France, manifestation d'enseignants et de parents d'élèves, notamment contre la réforme du lycée aujourd'hui.
Précision à suivre et décryptage avec Hakim Kasmi. Alors que votre invité des matins du samedi, Caroline, c'est la secrétaire d'État à l'environnement, Emmanuelle Wargon.
Tout à fait, secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, et elle est aussi la coordinatrice du grand débat. Autant de sujets que nous aborderons ensemble avec la ministre tout à l'heure.
Bien sûr, autre sujet en France aujourd'hui, les gilets jaunes qui appellent à nouveau à manifester malgré les nombreuses interdictions. Un état des lieux dans ce journal. Les professeurs et les parents d'élèves appellent à descendre dans la rue aujourd'hui, alors que l'Assemblée nationale vient de voter en première lecture la loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école. Parmi les réformes qui inquiètent, en particulier, il y a la réforme du bac, à l'heure où les élèves de seconde sont en train de choisir leur spécialité, Hakim Kasmi.
Avec le nouveau bac, terminées les filières S, ES et L, les élèves devront choisir trois spécialités en classe de première auxquelles s'ajouteront un tronc commun. Si en théorie, les lycées proposeront au moins 7 spécialités sur les 12 que prévoit la réforme, les élèves n'auront pas toujours le choix et ils devront composer avec les moyens de leur établissement. Un manque d'universalité que dénonce Rodrigo Arena, le président de la FCPE.
On avait prévenu le ministère en disant que ça ne serait pas applicable sur le terrain, l'esprit de la loi, c'est-à-dire l'esprit de la réforme, c'est-à-dire d'aller vers l'universalité d'accès à ce qu'on appelle les spécialités aujourd'hui. Les spécialités doivent être accessibles pour tous les élèves, quel que soit le territoire dans lequel ils habitent.
Autre inquiétude, la baisse des moyens, 2600 postes seront supprimés dans le secondaire à la rentrée pour faire des économies. Le projet de loi prévoit également le regroupement entre les collèges et les écoles primaires, mais aussi une aide obligatoire que devront reverser les mairies aux écoles privées. Ce que dénonce Francette Popineau, co-secrétaire nationale du SNUIPP.
C'est l'argent public qui va aller aux écoles privées, plutôt que pour les 2% qui ne sont pas encore scolarisés dans le secteur public, plutôt que d'apporter des aménagements. On sait que c'est beaucoup les ultramarins qui n'ont pas de scolarisation des enfants de moins de 3 ans. Il faut apporter pour ces dom-toms, il faut donner tout ce qu'il faut en matière de bâti, en matière de personnel, pour la cantine, pour l'encadrement. Il faut apporter toutes ces réponses-là plutôt que d'offrir aux écoles privées la possibilité de mettre en place des écoles.
Enseignants et parents d'élèves entendent bien profiter de cette manifestation pour mettre la pression sur les parlementaires avant l'arrivée du texte au Sénat fin avril.
Hakim Kasmi, les gilets jaunes aussi appellent à manifester aujourd'hui comme tous les samedis depuis le 17 novembre dernier. Il y a une semaine, ils étaient 40 500 en tout, selon le ministère de l'Intérieur, des chiffres contestés par les manifestants. Après les violences du 16 mars, l'exécutif reste sur sa ligne, fermeté et impunité zéro. Les rassemblements sont interdits sur les Champs-Élysées et dans plusieurs villes, mais les appels à manifester sont tout de même nombreux, Rosalie Lafarge.
Marseille, Rennes, Caen, Rouen, Montbéliard, Nice, Strasbourg, Paris, les appels à manifester s'accumulent sur les réseaux sociaux malgré les nombreuses interdictions. Mais là où l'inquiétude se fait vraiment ressentir, c'est à Bordeaux et Avignon. Bordeaux, d'abord, la préfecture de la Gironde redoute la présence de groupes violents et très déterminés. Le nouveau maire a même déclaré Bordeaux ville morte aujourd'hui. Il craint de voir débarquer des centaines de casseurs. Les habitants sont priés de rester chez eux, les commerçants invités à baisser le rideau. Avignon, ensuite, là aussi, la préfecture du Vaucluse interdit les rassemblements intramuros et sur plusieurs axes périphériques. Mais sur les réseaux sociaux, des gilets jaunes se donnent malgré tout rendez-vous à midi au Palais des Papes. À Paris, les Champs-Élysées sont bouclés, tout comme la place de l'Étoile et un grand périmètre autour de l'Élysée et de l'Assemblée nationale. Mais une mobilisation se dessine au départ de la place du Châtelet ou de la gare de l'Est, direction le Trocadéro. Par ailleurs, plusieurs messages sur Internet réclament le blocage de certaines usines d'armement ou de fournisseurs de matériel de maintien de l'ordre dans le Finistère ou la Sarthe. Pour ce 20e samedi de mobilisation, les gilets jaunes veulent montrer qu'ils sont toujours là et toujours en colère. Une colère ravivée par la décision hier du tribunal correctionnel de Paris à l'encontre d'une des figures du mouvement. Éric Drouet, condamné à 2000 euros d'amende, dont 500 avec sursis, pour avoir organisé des manifestations non déclarées dans la capitale.
Rosalie Lafarge. Éric Drouet, dont l'avocat dénonce un procès politique et annonçait dès hier sa volonté de faire appel au chapitre toujours judiciaire autour des Gilets jaunes. Alors hier, le procureur de Nice a changé de position concernant cette manifestante blessée samedi dernier lors d'une charge des forces de l'ordre. Elle avait bien été poussée par un policier, selon le procureur, qui a expliqué qu'un policier avait rectifié depuis sa version après avoir été confronté aux vidéos de la scène. Cette semaine, la polémique était devenue politique. Emmanuel Macron avait souhaité, dans Nice Matin, selon les mots du chef de l'État, un prompt rétablissement et une forme de sagesse à la septuagénaire qui s'était rendue à une manifestation interdite. Alors qu'hier, le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin, a proposé la suppression pure et simple de la redevance qui permet de financer l'audiovisuel public, donc aussi Radio France, France Culture, également France Télévisions. Nous viendrons peut-être tout à l'heure votre invité aujourd'hui, Caroline Brouet, dans les matins du samedi, et la secrétaire d'État à l'écologie, Emmanuelle Wargon.
France Culture, 8h06, suite du journal de Sophie Delpont. À Gaza, les Palestiniens appellent à participer au premier anniversaire de la grande marche du retour.
Oui, alors qu'un Palestinien de 20 ans aurait été tué par des tirs israéliens ce matin, près de la frontière israélienne, selon un communiqué du Hamas. Les Palestiniens comptent célébrer les 1 an de la grande marche du retour, cet événement lancé en mars l'année dernière pour tenter de briser le siège israélien. En 1 an, ces marches à répétition contre la frontière israélienne ont fait 200 morts et des milliers de blessés par balle côté palestinien. Toute une génération vit maintenant sur des béquilles et les avancées espérées par le Hamas qui alimente cette protestation sont très décevantes, selon ce qu'on peut entendre dans le reportage à Gaza de notre envoyé spécial Étienne Monin.
Saleh Elnem vient presque tous les jours dans le centre de soins de Médecins Sans Frontières. Il a reçu une balle dans le tibia. Il est toujours sous la menace d'une amputation à cause des infections à répétition, alors qu'il a été blessé il y a 1 an maintenant lors de la première marche.
On peut considérer que j'ai une vie d'handicapé, parce que déjà je ne peux pas trop bouger, je ne peux pas travailler. Même pour les escaliers, je dois les monter lentement ou bien ramper. Oui, j'ai une vie d'handicapé.
Dans ce centre de soins, on voit une armée d'éclopés. Au total, plus de 6500 Palestiniens ont été blessés par balle. Ils sont le prix payé pour cette contestation, sans résultat satisfaisant, estime aujourd'hui Mohamed Studi, qui a pris 3 balles en avril dernier.
Quand ils nous ont demandé de participer, en fait, ils nous ont utilisé pour des profits personnels. C'était pas pour l'intérêt du peuple.
Ces derniers mois, l'intensité des marches et la répression israélienne ont diminué. Mais pour la marche d'aujourd'hui, les services de soins et de secours à Gaza ont été renforcés.
Étienne Monin. L'espoir domine dans les rangs des manifestants qui ont encore massivement fait entendre leur voix dans les rues d'Alger hier. Les autorités refusent de confirmer un premier chiffre avancé d'1 million de personnes rassemblées, mais pour les manifestants, ils étaient encore plus nombreux que les semaines précédentes. Au cœur du cortège, c'est un reportage de notre envoyée spéciale Mathilde Dohimi.
Les chants se répondent d'une rue à l'autre. Des heures durant, sans fatigue, ils dénoncent la corruption, raillent la tentative de sortie de crise du chef d'état-major, Qaïd Salah, et se moquent de l'âge de leurs dirigeants, comme Jamel, retraité.
La casquette dans les casernes. Le peuple veut un état civil avec un président jeune. En France, Macron, 40 ans, et nous avec des casseroles cassées de 80 ans.
RND, dégage !
On ne peut se reconstruire qu'en dehors de ce système, insistent les manifestants. Certains noms émergent pour engager une transition, dont celui de l'ancien président Lamine Zeroual. Samia est sceptique.
On veut des gens qui n'ont jamais eu une main dans le système, des mains propres. On ne veut pas des anges, mais simplement des gens qui vont être garants d'une transition.
Aucun ne songe à s'arrêter de manifester. Petit à petit, le pouvoir cédera, assure Walim.
On remarque de semaine en semaine qu'il y a des changements. Ça va arriver progressivement, parce que là, ils commencent à lâcher. Il y a une pression énorme du peuple. Eux, ils sont 400, nous, on est 40 millions.
Cette semaine sera peut-être décisive, croient certains. Si rien ne se passe, on prendra le temps qu'il faut pour tout changer.
Un reportage signé Mathilde Dohimi.
Va-t-on vers une sortie du Royaume-Uni sans accord, ce que redoutent les acteurs économiques des deux côtés de la Manche?
Oui, c'est ce qui se passe en ce moment avec le Brexit et ce troisième vote qui n'a pas réussi à Theresa May. Les députés britanniques ont voté contre sa proposition d'accord et c'est donc vers un no deal qu'on pourrait se diriger, qui pourrait prendre effet le 12 avril prochain, c'est-à-dire une sortie sans accord négocié pour le Royaume-Uni. C'est désormais ce scénario-là qui est jugé le plus probable par la Commission européenne qui s'y prépare activement depuis des mois. Lundi dernier, elle a même annoncé que les préparatifs étaient terminés en vue de cette sortie sans accord. Et à Londres, dans le même temps, la situation de la première ministre britannique Theresa May ressemble de plus en plus à un siège éjectable, Louise Baudet.
Humiliée, déconsidérée, mais toujours première ministre. Theresa May reste en piste, sa promesse de démission ne valait qu'en cas d'adoption du traité et elle compte bien s'accrocher malgré les appels pressants. À peine le résultat annoncé, Jeremy Corbyn, le leader des travaillistes, a de nouveau réclamé son départ et il n'est pas le seul, voilà des mois que la bataille de succession est engagée à droite. Elle a même largement dicté l'attitude du camp conservateur ces dernières semaines, avec de spectaculaires retournements de veste. Une fois acquise la fameuse promesse de démission, les procureurs les plus féroces de son accord de divorce lui ont tout à coup trouvé quelques vertus. Et les mêmes, Boris Johnson en tête, font la une des journaux qui spéculent. Par ailleurs, la demande d'élections législatives se généralise, y compris chez les Brexiteurs qui ont manifesté hier devant le Parlement. Nigel Farage était parmi eux. L'ex-patron du UKIP s'active sur le dos du Brexit, comme beaucoup d'autres, dans un processus déclenché en son temps par David Cameron pour éviter de se faire doubler sur sa droite.
Louise Baudet, nous partons maintenant à Rome où les partis d'extrême droite s'étaient donné rendez-vous à 2 mois des élections européennes. Un proche de Matteo Salvini a rassemblé ses amis patriotes de France, d'Allemagne ou de Belgique. Leur rencontre s'est ouverte hier dans le centre de la capitale italienne, Marie Duhamel.
Tous souhaitent, certains à haute voix, renverser les équilibres au Parlement de Strasbourg pour pouvoir changer l'Europe. Il y a d'abord des ennemis à abattre, les dirigeants français et allemands, mais également les technocrates arrogants de Bruxelles. En particulier, le soulard qui préside la Commission européenne, affirme le représentant allemand de l'AFD. Leur histoire a 60 ans, notre Europe en a 3000, a poursuivi Jordan Bardella. Le français du Rassemblement national évoque la démocratie athénienne ou la Rome impériale. Il ravive la gloire passée pour en venir au futur. On doit reprendre les clés des confins européens pour défendre nos trésors. Aujourd'hui, explique-t-il, l'Europe est un espace ouvert à tout vent où entre drogue, armes et terroristes. Jordan Bardella propose de renforcer la lutte commune contre l'immigration, d'autant s'indigne-t-il qu'en France, un migrant peut gagner plus qu'un retraité. La préférence nationale sera d'ailleurs le combat de demain, assure l'organisateur italien. On nous dit que l'Europe ne peut être touchée, sinon c'est la guerre, mais nous sommes déjà en guerre. Ce n'est pas celle des bombes, précise-t-il, mais celle de la précarité. Andrea Crippa, député léguiste, héros du soir, a conclu la soirée en promettant aux dizaines de jeunes endimanchés, des berceaux qui ne seront plus vides, des crucifix dans les écoles et une nouvelle alliance avec Moscou. On avait d'ailleurs annoncé la venue de Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, niette. En revanche, le britannique UKIP, défenseur d'un Brexit dur, était bien là, présence étrange, alors que ceux qui partageaient son estrade ont répété toute la soirée qu'il n'était pas question de quitter l'UE.
Marie Duhamel à Rome pour France Culture. La Croix-Rouge internationale a annoncé hier soir une distribution d'aide d'urgence au Venezuela, où une nouvelle coupure électrique massive a replongé une grande partie du pays dans le noir pour la 3e fois en moins d'un mois. Alors que les habitants se remettaient à peine d'une panne géante qui a paralysé le pays pendant 4 jours, une nouvelle coupure de courant est intervenue vers 19h hier, heure locale, plongeant à nouveau Caracas dans l'obscurité. Plusieurs autres grandes villes comme Maracaibo, Valencia ou encore San Cristobal dans l'ouest du pays, était également touché selon les informations diffusées sur les réseaux sociaux par les habitants. Les hommages affluent du monde entier depuis qu'on a appris hier la mort d'Agnès Varda, l'une des plus grandes réalisatrices de films et de documentaires de l'histoire. Elle est décédée à l'âge de 90 ans après une carrière exceptionnelle. Agnès Varda va terriblement manquer à la création française, a déclaré hier soir Emmanuel Macron. Celle qui avait aussi été la femme du réalisateur Jacques Demy avait réalisé notamment les films Cléo de 5 à 7 et Saint-Ouen-Illois, ou le documentaire Les Glaneuses, ou encore récemment Les plages d'Agnès. Pour le cinéaste Bertrand Tavernier, c'était une immense artiste qui portait aussi la parole d'une femme au regard engagé dans un monde d'hommes.
Agnès, elle regardait le monde autour d'elle. Elle apportait quelque chose de, un regard vraiment de femme sur, qui était important dans le cinéma de la Nouvelle Vague. Ils n'étaient pas particulièrement féministes, hein, les cinéastes. Même si certains d'entre eux, comme Truffaut, aimaient beaucoup les femmes, par rapport à des gens comme Becker, Ophuls ou autant Lara, Agnès amenait quelque chose de très différent. J'aimais énormément ça, moi, chez Agnès. Ce regard, cette façon de pouvoir s'intéresser aussi bien à des commerçants de la rue d'ailleurs qu'à une tragédie d'une femme populaire, comme est l'héroïne de Cléo.
Au micro d'Isabelle Pasquier. Le soleil aujourd'hui brillera pour tout le monde. Les températures sont douces, compris ce matin, entre 11 et 16 degrés. 11 à Grenoble, 13 à Strasbourg et Nantes, 14 à Paris, jusqu'à 16 degrés maximum à Nice.